Hello les amis, je lance l'enregistrement pour vous parler un petit peu de Cursor que je viens de retester, notamment la fonctionnalité de d'édition visuelle. Voilà, donc on est le 18 décembre 2025, on arrive sur la fin de l'année, mais il y a toujours des actus, et donc je vous avais parlé brièvement de cette fonctionnalité qui est un pas de plus, on va dire, vers cette hybridation no-code, vibe-code, code, je ne sais pas comment, voilà, tout en même temps. Donc Cursor, qui est un outil de code assisté par IA que l'on peut utiliser en mode vibe coding, propose maintenant une manière aussi visuelle. Alors, je vais vous détailler un peu ça, parce que maintenant que je l'ai testé rapidement, mais je pense que ça suffit pour avoir bien compris le principe. Et c'est assez intéressant et étonnant, quelque part. Je vais vous expliquer. Il y a des choses qui sont puissantes, et puis des choses qui sont pas très efficaces, on va dire. Alors, en gros, comment ça marche? Donc, vous pouvez lancer, ça marche sur n'importe quel projet web. Ça, c'est la première chose, et vous allez comprendre pourquoi. Je vais essayer de l'expliquer de manière pas trop technique. Donc, vous lancez un projet web, vous lancez le serveur de développement. Donc, vous vous souvenez que Cursor, évidemment, ça fonctionne en local. Donc, vous avez votre code en local, et donc, il faut que vous exécutiez le serveur de développement en local. Donc, admettons que vous faisiez un projet React vide, par exemple, vous allez faire npm run dev, ça va vous lancer le serveur local, et puis voilà, si vous faites du Python, ça va marcher aussi, vous lancez le... Voilà, donc vous êtes dans Cursor, vous êtes dans votre projet, vous avez l'environnement de développement qui tourne, et donc vous allez ouvrir dans le browser de Cursor, donc dans le navigateur interne de Cursor, vous allez ouvrir votre serveur de développement. Et là, vous allez avoir un mode qui va vous permettre donc de faire de l'édition visuelle. Alors, ça ne permet pas de tout faire, mais ça permet de faire certaines choses. En gros, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir sélectionner des blocs, donc des divs, en fait, sous-jacentes. Vous allez pouvoir sélectionner les divs, en fait, que vous avez dans votre structure, dans le rendu front-end de votre projet. Même si c'est un projet Python, en fait, ce qu'il va regarder, c'est vraiment le rendu front-end. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est déplacer des blocs. Vous ne pouvez pas les déplacer n'importe comment, en fait. Vous ne pouvez pas manipuler toute la mise en page. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir réordonner des divs. Vous voyez, si vous avez des divs les unes au-dessus des autres, vous allez pouvoir changer l'ordre. Vous ne pourrez pas faire des colonnes, des choses comme ça, en tout cas, pas de ce que j'ai vu. Et d'un point de vue technique, je le comprends, c'est juste qu'en fait, c'est un réordonnancement de l'arbre de div, sans rentrer trop dans les techniques, mais bon, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manipuler le DOM, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Et donc, en fait, vous allez faire des modifications, donc il y a cette première modification que vous pouvez faire, et puis après, il y a des modifications de type CSS, donc en fait, quand vous cliquez sur une div, vous avez un panneau à droite qui s'ouvre, qui ressemble énormément au panneau de Webflow, de WeWeb, enfin, qui est très standard, en fait, vous allez avoir différentes propriétés CSS, beaucoup moins que dans Webflow ou dans WeWeb, évidemment, mais un certain nombre. Alors là, je ne l'ai pas sous les yeux, j'aurais dû le rouvrir, évidemment. Mais en gros, vous pouvez modifier les différents paramètres, les marges, la largeur, des choses comme ça. Et puis, en fait, ce qui va se passer, donc, quand vous allez faire des modifications, lui, en fait, il va sauvegarder ces modifications dans la fenêtre de chat. Il ne va pas modifier le code. Quand vous faites ça, en fait, à aucun moment, il modifie votre code. Et c'est pour ça que ça marche avec tout, en fait. Donc, vous allez comprendre. Donc, en fait, lui, il enregistre. Donc, il comprend que vous lui dites dans le navigateur, cette div, je veux lui rajouter une bordure. Ça, il enregistre cette information-là, la bordure, 5 pixels, machin. Il le met dans la fenêtre conversationnelle de votre agent. Et ensuite, quand vous allez appuyer sur Entrée, eh bien, il va aller chercher comment implémenter cette modification que vous avez effectuée. Et en fait, c'est un peu obligé qu'il fasse comme ça. Parce que c'est le seul moyen que ça fonctionne, quelle que soit la technologie qui est derrière. Ce n'est pas du tout comme ça que fonctionnent les outils no-code. Évidemment, les outils no-code, ils gèrent le code. Donc, vous pouvez pas lancer du Python dans WeWeb, par exemple. WeWeb, ça repose sur du Vue.js, si je ne dis pas de bêtises. Tout le code que quand vous manipulez les éléments, c'est du Vue.js. Donc quand vous les modifiez, ça modifie du Vue. Donc ils ont fait une abstraction visuelle de tout ça, qui fait que quand vous modifiez un élément, vous le déplacez, ils peuvent tout de suite modifier le code parce qu'ils le contrôlent de A à Z. Là, c'est pas pareil. Quand vous ouvrez dans Cursor un projet de code, si vous l'avez fait en Python, c'est un projet web, tout ça c'est que du web, hein, on parle bien. Et il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit modifier, en fait. Parce que dans certains projets Python, le CSS va d'une certaine manière. Dans un projet React, le CSS va d'une autre manière. Peut-être qu'il est inline, comme on dit, il est vraiment directement. Peut-être qu'il est dans un fichier CSS, peut-être qu'il est directement dans le code HTML, dans le code du composant. Voilà, il y a énormément de manières de faire. Mais donc, ce qui est malin, c'est que vous, vous faites quand même votre truc de manière visuelle. Et puis lui, en fait, après, ça donne l'indication à l'IA. En fait, ça vous évite tout simplement de taper, de dire « Je veux pour tel bloc une bordure de 10. » Parce qu'en fait, le « pour tel bloc », il n'est pas évident en texte. Là, vous manipulez, vous voyez, vous avez même une preview de ce que vous demandez. Ça, c'est le truc aussi qui est malin, ça je ne l'ai pas dit, mais évidemment, j'ai sauté à comment il allait implémenter ça, mais vous avez un feedback visuel. Quand vous dites « je veux une bordure », bah, vous voyez tout de suite que ça donne la bordure. Ça, c'est malin et ça, ils peuvent le faire, puisque quel que soit le langage derrière, une fois que c'est dans le navigateur, c'est le rendu HTML, CSS, et donc ça, eux, ils peuvent le manipuler, c'est ce que permettent de faire tous les navigateurs de toute façon. Et donc, vous faites ça. Et puis, par contre, pour l'implémenter, eh ben lui, ensuite, il va lancer son agent qui va faire comme si vous lui avez demandé, je veux une bordure code. Et puis, il va regarder, il va dire, il va aller lire tous les CSS, les machins. Bon, ça, c'est le fonctionnement après de Cursor. Et puis, il va modifier tel fichier, suivant la manière de faire. Et ça marche. Et ça marche. J'ai pas fait énormément de tests, mais ça marche. Je voulais juste comprendre comment ça fonctionnait. Parce que j'ai passé là quelques jours à Nantes avec mon ami Axel, qui est dev aussi, et on se questionnait un peu, puis on ne l'avait pas testé tous les deux, puis on essayait de se projeter un peu, de voir comment faire, parce qu'on sait que c'est un challenge technique. Voilà, et autant je comprends bien comment ça marche avec des outils no-code, autant là je me disais, mais Cursor, ça peut être n'importe quel projet de code qu'on a dedans. Donc on a un petit peu, on se faisait des petites projections, et je me doutais que ça serait un truc comme ça, mais je voulais le vérifier. Et voilà, et donc c'est ça. Quel est le problème ou l'avantage de ça? Bon, l'avantage, comme je l'ai dit, c'est que ça va marcher avec n'importe quel projet de code, et c'est pas le... De toute façon, Cursor n'a pas vocation à être un outil de programmation visuelle. Mais pour certaines choses, bah, très franchement, pour l'avoir testé quand même de nombreuses fois, demander à un agent de rajouter 5 pixels à un bloc, en fait, c'est pas si facile que ça, parce que des fois, il se trompe, il comprend pas celui que vous lui demandez, donc, et puis c'est un peu pénible de taper, alors que rajouter 5 pixels, on clique sur une div, on a la petite fenêtre à droite qui s'arrête, on voit bordure 5 pixels, on appuie sur 5, et puis c'est fini, quoi. Voilà, donc là, c'est ça, mais couplé au côté IA, et donc on sollicite quand même des LLM. Ça, c'est le gros inconvénient, c'est qu'en fait, ce que vous lui demandez de modifier, eh ben, vous sollicitez un LLM quand même pour le faire. Donc ça, c'est un peu dommage, parce que ça consomme des ressources, ça prend un peu de temps aussi, c'est pas immédiat. Donc ça, c'est un peu le truc. Alors bon, c'est bien, pas bien, bon, bah, c'est juste pour dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, vous verrez ce que vous en ferez. Mais de toute façon, d'un point de vue technique, je comprends un petit peu tout ça, je ne voyais pas comment ça pouvait être autrement. Donc, je suis content d'avoir à peu près de deviner. En tout cas, après, je n'ai pas les détails les plus techniques et tout. Mais voilà, en tout cas, ça marche. C'est intéressant. C'est un petit ajout qui fait que bah, ça aide à un usage de Cursor pour des gens non techniques. Pour des gens techniques, ce n'est pas forcément intéressant. Un développeur qui utilise Cursor comme un environnement de développement et qui s'aide un peu de l'IA, quand il veut rajouter 5 pixels, bah, le développeur, il sait exactement quel fichier ouvrir, rajouter 5 pixels, et puis on n'en parle plus, quoi. Donc ça reste le plus efficace. Mais voilà, là, c'est une manière de faire. Donc, ils ont proposé une abstraction visuelle, mais qui vous simplifie simplement l'usage de l'agent, qui ne remplace pas l'usage de l'agent. Voilà. J'espère que c'était clair. J'avais envie de vous expliquer un petit peu ça parce que ça me paraît important. Ça vous donnera aussi peut-être quelques informations un petit peu de comment fonctionne le web, tout ça. Bon, sachant que ça, c'est évidemment le sujet du vibe coding éclairé. Voilà, d'ailleurs, la cohorte... en même temps que j'enregistre, je viens de recevoir une notification de la 5e inscription à la cohorte, donc il ne reste plus que 3 places. Ce dont je suis assez content, je dois dire, parce qu'elle est dans pas mal de temps et donc je ne pensais pas que ça allait se remplir aussi vite. Donc voilà, donc si jamais ça vous intéressait, bah voilà, je le rappelle, donc c'est pas une formation où vous allez avoir tout cru comment ça marche le vibe coding, c'est plutôt une semaine de mise en pratique avec des ressources en amont, et puis voilà, pour mettre les mains dedans si vous avez déjà un petit niveau en no code, parce que voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Donc si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à aller voir, je mettrai les liens comme d'habitude dans les ressources. Et puis typiquement, bah voilà, on discute de ce genre de choses, comment fonctionnent les outils, comment fonctionne le web, enfin ce genre de choses. C'est beaucoup de discussions, de découvertes ensemble, de croisements des expériences et des expérimentations de chacun. et puis avec évidemment en support des exercices du Cercle des Ops qui ont une correction que vous pouvez regarder. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt.